Salut Mermet, je viens de voir passer un de ces bus de substitution mis en place par la mairie de Marseille pour venir en aide, je cite, aux otages de la grève, aux personnes les plus démunies, aux personnes âgées pour qu'elles trouvent quelqu'un à qui parler et sans lesquelles, je cite toujours Madame Escaragonet, adjointe au maire, on pourrait se retrouver dans le modèle de 2003, chaleur en moins. Décidément, il y en a qui n'ont pas peur du ridicule. Mais qu'on se rassure, les Marseillais ne semblent pas avoir besoin d'une telle sollicitude. L'autocar était tout juste rempli aux trois quarts de sa capacité. Par contre, nos escarcelles seront bien vides quand nous devrons payer ce coût de caprice. C'est Claire, 67 ans, qui marche pour se rendre aux manifs de soutien aux grévistes de la RTM. À bientôt et continuez, hein.
Salut à tous, voilà, je me réveille, les infos de France Inter, c'est le 25e jour de grève des salariés des transports en commun de Marseille. Et France Inter de nous passer un petit commerçant qui se plaint, parce que lui, il est dans l'achat plaisir. Et si les Marseillais sont stressés pour rentrer, ils viendront pas chez lui acheter des fleurs ou de la maroquinerie. Alors moi, je vous le dis, j'en ai marre de cette manière de faire l'info sur France Inter. C'est le 25e jour de grève, ça fait 25 jours que les gars, ils ont arrêté le travail. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'interview d'un gréviste? Pourquoi est-ce qu'on leur donne pas la parole? Je vais être grossière, mais 25 jours, faut avoir des couilles pour le faire. Alors chapeau les grévistes. Et puis, le petit commerçant géniard, ben c'est-il pas la preuve que c'est les travailleurs qui font tourner cette société? Allez, ciao, et bon courage aux grévistes.
Bonjour l'équipe de la BSI, j'y suis. Ici Dominique Debelle, une bénévole. On est tout un groupe de bénévoles à solidaires avec Moustache et Jean-Claude qui sont jugés en appel à Douai. Et pendant ce temps-là, sur le lieu de la distribution du repas de midi, la police en grand nombre ramasse tous les réfugiés. Voilà, c'est ça la vie à Calais. Je rappellerai plus tard, parce que le 5 novembre, ce sera l'anniversaire de la fermeture de Sangatte. Et pendant cela, laissons M. Sarkozy agir avec arrogance. Merci.
Oui, Daniel Mermet, bonjour. Toute l'équipe de la Bastille, j'y suis, bonjour. Voilà, on est dans la rue, on est sur la préfecture de Montpellier. Tous les étudiants sont bien là, ils sont en grève. Ils ont toujours pas payé, ils ont pas les bourses, et on veut un bac qui fasse plus 3 parce qu'on bosse 3 années à l'école et pas 2. Donc voilà, alors on est à la rue et on manifeste et on le dit et on attend le rendez-vous avec le préfet. Voilà, et ben toute l'équipe de la Bastille, j'y suis. Ciao, ciao, à la prochaine.
Bonjour, c'est Jo la Faucheuse. Je suis très très contente, j'ai la joie de vous annoncer que les 3 faucheurs de Grenoble sont relaxés et que Monsanto se voit totalement débouté de ses prétentions en dommages et intérêts. C'est donc une grande victoire et c'est la première et j'espère qu'elle sera suivie par les autres. Nous avons presque 10 procès et c'est le premier jugement rendu par la cour d'appel de Grenoble. C'est super, je suis super contente. Allez, à la prochaine, au revoir.
Eh ben voilà, on perd pas toujours, au moins ça fait du bien de se dire ça pour commencer cette heure aujourd'hui, que heure que nous allons passer à nouveau avec le journaliste Robert Fils, journaliste anglais qui depuis 30 ans couvre le Proche-Orient, le Moyen-Orient et qui publie ce livre fabuleux, formidable qui s'appelle La Grande Guerre pour la civilisation où l'Occident a la conquête du Moyen-Orient, une suite de reportages, de réflexions, d'analyses et de résistance aussi d'un journaliste tout à fait hors norme et hors pair. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la BASI, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, Catherine, j'habite dans le sud-ouest et il m'arrive de lire la Dépêche. Alors, ce n'est pas mon organe de presse préféré, mais ils ont parfois de bonnes réactions. Aujourd'hui, vendredi 28 octobre, ils font un grand titre et un article pleine page sur les tripatouillages des chiffres du chômage. Ils expliquent clairement comment les nouvelles gestions de liste de la NPE, les stages, les contrats précaires, permettent au gouvernement d'annoncer des chiffres en baisse depuis septembre. Ce matin à France Inter, cet article de la Dépêche est évoqué en revue de presse. Le journaliste qui assure le 7-9 reçoit le ministre des Finances, lequel se félicite des bons chiffres. Curieusement, il ne vient pas à l'idée du journaliste d'interroger le ministre sur ce point de vue contradictoire apporté par la dépêche. Mais par ailleurs, tous les bulletins d'infos de la matinée vont reprendre l'annonce de la baisse du chômage comme une vérité incontestable. Pas de conditionnel, pas de remarque précisant que ces chiffres sont sujets à caution. Par conséquent, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que les journalistes qui assurent les bulletins d'information sur France Inter et même la tranche horaire du matin, si importante, est-ce qu'ils font du journalisme de l'information ou tout simplement de la propagande? Voilà, merci de donner un écho à ma question. Oui, peut-être que nous sommes un certain nombre à avoir les mêmes interrogations. Au revoir.
Salut Daniel, je suis Louise de Charleville-Mézières, je suis agent de train à la SNCF et j'aimerais vous lire une lettre qui relate ce qui se passe actuellement au sein de notre belle entreprise et plus largement de notre beau pays, la France. Lettre des cheminots du dépôt de Mont aux usagers. La direction SNCF a purement et simplement décidé de se passer des Ardennais pour la conduite des trains fret. Cette décision engendre la suppression de 100 agents de conduite au dépôt de Mont. 50 autres emplois induits sont de fait menacés. Ces agents et leurs familles vont devoir plier bagages. Les conséquences de cette restructuration dépassent largement le cadre de la SNCF. En effet, 150 familles quittant les Ardennes, c'est autant de rentrées fiscales en moins, de fermetures de classes, de pertes pour les commerces et surtout autant de perspectives d'emploi perdues pour les générations futures. Depuis déjà plusieurs mois, les agents de Mont, via leur syndicat CGT et l'appui des autres organisations syndicales, ne cessent de dialoguer avec la SNCF pour enrayer cette triste décision. Aujourd'hui, la seule réponse de notre direction, ce sont les modalités de nos proches déménagements. Devant cette impasse, nous avons informé les élus locaux de tous bords qui aujourd'hui nous accordent leur soutien, notamment par des motions votées au Conseil régional et général. Les cheminots ardennais responsables de leurs actes sont encore aujourd'hui dans une démarche de négociation. La balle est dans le camp de la SNCF. Dans quelques semaines, voire quelques jours, sans évolution dans les négociations, la grève sera notre ultime recours. La SNCF portera alors l'entière responsabilité et les conséquences du conflit. Voilà, ça se passe chez nous à Mont, mais ça se passe dans 4 autres dépôts en France. Et d'ici 2008, ils ont décidé de fermer 15 autres dépôts. Voilà, l'État a décidé de casser le service public, SNCF, EDF, Sécurité sociale. Mais vous y trompez pas, après nous, ce sera votre tour dans le privé. Et ça commence déjà chez nous, Delphi, Citroën et toutes les autres.
Nous venons d'apprendre la mort de Guingouin. Notre salut fraternel à cet homme de la résistance, de toutes les résistances.
Mesdames, messieurs, vous venez d'entendre une proclamation de l'état-major des forces françaises de l'intérieur.
Le 18 juin 1940, je suis dans un hôpital de Moulins sur Allier, blessé, quand les unités allemandes arrivent dans la matinée. Et naturellement, pour moi, le problème se pose, être prisonnier. Alors, je n'accepte pas, et sous une pluie de balles, je rejoins le poste de secours du régiment qui défendait la ville, et avec ce régiment-là, je suis évacué. Et c'est le même jour que, mais à la BBC, qu'au soir, le général de Gaulle lance son célèbre appel. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne s'éteindra pas. À tel point qu'il y a un rapport officiel d'un commissaire de police qui est allé près du maréchal Pétain dire que cette région était la région essentielle de résistance de toute la France sud, et le maréchal Pétain lui-même, le 12 août 1941, a tenu à dire qu'il sentait un vent mauvais se lever dans toute la France. Eh bien, c'était nous, les gars du Haut-Limousin, qui étions l'auteur, justement, de ce vent mauvais que le maréchal Pétain constatait déjà.
Français, quiconque parmi vous, fonctionnaires, militaires ou simples citoyens, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
voilà, collaborer, résister. Bref, hommage à Georges Guingouin qui est mort hier soir à l'âge de 92 ans. Ça fait longtemps qu'on se promet de faire des reportages, des émissions sur lui. Sa voix que vous venez d'entendre, non pas celle de Pétain, mais la précédente évidemment, avait été longuement entendu dans une suite d'émissions remarquables sur France Culture, qui sans doute va rediffuser cette série. Guingouin est très connu évidemment dans toute cette région de Limoges et de la Creuse, etc., de la Haute-Vienne. Et en deux mots, il faut rappeler qu'il a été un résistant effectivement formidable. Dès le 17 juin 40, cet instituteur organise la résistance, et dès juillet, donc quelques semaines après l'appel, le fameux appel, il forme des groupes clandestins qui diffusent des tracts contre le gouvernement de Vichy. Et puis ensuite, dans le maquis, à partir d'avril 41, il crée des groupes de francs-tireurs, et ils mènent de nombreuses actions de sabotage dans cette région. En 44, et ça c'est le grand moment, il organise la libération de Limoges, et il entre dans la ville avec à la tête de 20 000 combattants de la Haute-Vienne. 20 000 combattants de Haute-Vienne sont sous ses ordres, et 6 à 7 000 iront combattre dans les départements voisins. On sait ensuite les mailles à partir qu'il a eu avec le Parti communiste qui l'a exclu, et par la suite il a repris son travail d'instit. Je l'avais eu au téléphone il y a quelques années quand j'avais été poursuivi pour incitation à la haine raciale, et Guingouin m'avait soutenu, et donc c'est pas la seule raison pour laquelle je lui rends hommage. Évidemment, nous rendons hommage à un remarquable résistant. Un autre résistant, collaborer, résister, c'est un thème permanent de notre émission aujourd'hui, donc Robert Fisk, journaliste, auteur de La Grande Guerre pour la Civilisation.
The media have become part of the Bush administration.
Of course, national polls do show that Americans now overwhelmingly support the war.
Yay, America, we can do it.
This was tremendous. Baghdad was lit up like a Christmas tree.
We began to feel as if we were living under martial law.
It is a big idea, a new world order, a new world order, a new world order.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis, avec Robert Fisk, La Grande Guerre pour la Civilisation, l'Occident à la conquête du Moyen-Orient.
Flight number 2, arriving from New York.
Jacques Chirac a des entretiens en ce moment même avec M. Saddam Hussein, le numéro 2 irakien. Il est vice-président du Conseil de la Révolution d'Irak. Hier soir, au Beau-de-Provence, ce matin à Cadarache, au centre d'énergie atomique, Jacques Chirac a expliqué au micro d'Alain Trampolieri les raisons de cette visite et ce qu'il faut en attendre.
1975.
Les échanges croissent, vous le savez, depuis un an, à un rythme très accéléré. Alors aujourd'hui, M. Saddam Hussein a souhaité visiter le centre de Cadarache, car il est en train de mettre au point un programme nucléaire cohérent pour l'Irak, et la France peut s'associer à cette réalisation.
À noter enfin que Jacques Chirac vient d'annoncer que la semaine prochaine, un accord de coopération nucléaire sera signé entre l'Irak et la France.
Le chef du gouvernement irakien, M. Saddam Hussein, a manifesté un égard tout particulier envers le Premier ministre Jacques Chirac. Il l'a invité à dîner à son domicile, ce qu'il n'avait fait pour aucun autre chef d'État. C'est dire que Jacques Chirac était très satisfait cet après-midi à son retour à Paris. La déclaration qu'il a faite en témoigne.
J'ai des relations personnelles et excellentes avec le vice-président Saddam Hussein. J'ai eu de longs entretiens avec lui sur les problèmes bilatéraux, c'est-à-dire les relations économiques et industrielles entre la France et l'Irak, qui vous le savez, sont importantes et, je dirais, d'importance croissante depuis un ou deux ans.
Je suis l'héritier des grands choix de la France. Mais, a priori, le fait que, depuis 1975, l'Irak soit le premier client en achat d'armes dans le monde, d'achat d'armes françaises,
1984.
C'est une situation que j'ai trouvée, que je n'ai pas réprouvée. Eh bien oui, nous avons continué d'aider notre ami.
Good evening, I'm Bill Crowley. These are some of the top stories coming up on WCBS 880. The American-led air attacks in Afghanistan are over for the night. Planes also dropped food and medical supplies in Afghanistan. President Bush said the U.S. will not falter in the war against terrorism. Yanks beat Tampa Bay. Mets lost to Montreal. The Rangers and Buffalo tied in the third.
America fights back. Count on the global resources of CBS News for continuing coverage right here on WCBS New York and in Infinity Broadcasting Station.
WCBS News Time, 10 o'clock.
Un jeu vidéo, sans doute. Ou alors une série télé. Bon, on s'en fout, hein. On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est de vous divertir, de vous détendre pour préparer vos cerveaux. Ce qui compte, c'est cette part de cerveau humain disponible qu'il s'agit de vendre à l'annonceur qui viendra tout à l'heure. Voilà. Robert Fisk ne croit pas à ça. Robert Fisk ne veut pas ça. Ce journaliste qui, depuis 30 ans, est devenu le meilleur observateur, l'un des meilleurs analystes du Proche-Orient et du Moyen-Orient, continue de se battre, lui, à sa façon, comme reporter, comme journaliste. Aujourd'hui, il publie ce bouquin énorme, 1000 pages, La Grande Guerre pour la Civilisation. Il nous a expliqué hier pourquoi ce titre, La Grande Guerre pour la Civilisation, c'était des mots qui étaient gravés dans une médaille militaire qui a été remise à son père qui a fait la guerre de 14-18 en France. Et il a repris cet argument, ce vieil alibi. La grande guerre pour la civilisation, ces grandes guerres se font toujours au nom de la civilisation, au nom du bien, au nom du progrès, bien évidemment. Et on en a actuellement un exemple sous les yeux en Irak. Mais sous les yeux, derrière un écran, derrière cette société écran qui nous protège de ce qui se passe là-bas, qui euphémise ce qui se passe là-bas, qui fait oublier ce qui se passe là-bas. Et Fisk n'oublie pas, à 59 ans, il n'oublie rien de ce qu'il a vu, vécu et raconté au cours de ses papiers. Évidemment, c'est une vie dangereuse, c'est une vie haletante. Et avec ce bouquin, il dit « J'ai essayé de donner un sens à ce dont j'ai été témoin, de replacer toutes ces choses dans un contexte qui n'existait pas au moment où je cherchais à sauver ma vie, de parler à ceux aux côtés desquels, même brièvement, j'ai partagé ces cauchemars. » Voilà, il revient sur ses pas, il revient sur ses papiers, il revient sur ses idées pour essayer de s'inscrire cette fois dans le temps plus long de l'histoire. Robert Fisk est celui qui a rencontré Ben Laden à 3 reprises. Il a rencontré Ben Laden, c'est un journaliste engagé. On aurait aimé que ça fasse pléonasme de dire journaliste et engagé. En tous les cas, lui, il est un journaliste engagé, souvent pris à partie parce que, d'abord parce qu'il a pris parti, donc quand on prend parti, on est pris à partie, et parce qu'il accuse beaucoup, très souvent, l'Occident de ses responsabilités. Il signe des papiers intitulés « Aujourd'hui, les criminels de guerre, c'est nous ». Il veut absolument que nous portions notre part de responsabilité, que l'Occident porte sa part de responsabilité. Derrière ce mot de terrorisme, il a vu des hommes, il les a écoutés, il a essayé de les comprendre et aujourd'hui, il nous en fait part.
Ce que craint l'ennemi, c'est la guerre urbaine et c'est là qu'il risque des pertes considérables. Nous soulignons l'importance des attaques martyrs. Ces attaques ont été, pour l'Amérique et Israël, une catastrophe comme ils n'en avaient jamais connue auparavant. Tous ceux qui soutiennent l'Amérique, tous ceux qui auront accepté d'appuyer cette guerre des croisés par un soutien logistique ou en mettant leur base à la disposition de l'ennemi, tous ceux-ci qui auront contribué à tuer des musulmans en Irak sont considérés des apostats dont le sang doit être versé.
Mais ce que vous dites, c'est à quel point Ben Laden est lié à notre histoire dans ce conflit entre l'Occident et le monde arabe, arabo-musulman, on va dire. Ben Laden est un produit de cette histoire. Il est un acteur de cette histoire. Il est engagé aux côtés des États-Unis contre l'Union soviétique. Il est en rupture avec son monde, c'est-à-dire avec le pouvoir en Arabie saoudite. C'est un personnage important, c'est un homme d'affaires important qui est en rupture. Il y a un moment, en lisant les entretiens que vous avez avec lui, on dit c'est un peu le Che Guevara du monde arabo-musulman.
I never thought it was Che Guevara, but I wouldn't think of Arafat as Che Guevara either.
Mais Arafat non plus.
Enfin, je veux dire un héros.
I think he wanted to be the Lawrence of
Arabia. Il voulait plutôt être le Lawrence d'Arabie du monde arabe. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'il était lorsqu'il luttait contre les Russes. Il jouait le rôle de Lawrence d'Arabie. Mais il faut, ce qu'il a changé, c'est après l'invasion du Koweït par l'Irak, il est allé voir la famille royale saoudienne en disant j'étais un dirigeant, un chef religieux en Afghanistan, laissez-moi chasser les Irakiens. Et lorsque les Saoudiens ont dit non, on préfère traiter avec les Américains, c'était une humiliation terrible, pas pour lui seulement à titre personnel, mais pour ce qu'il représentait, parce qu'il voulait sortir les Arabes de centaines d'années d'humiliation, et il était capable de le faire, il se présentait comme un héros, capable, grâce à la guerre contre les infidèles, était rejeté en disant non, on fait plutôt confiance au grand Satan américain qu'à vous-même et là, c'était un tournant. Il s'est rendu compte, en tout cas à son esprit, que c'était l'Amérique l'ennemi, ce n'est pas simplement la famille royale saoudienne corrompue.
Je jure par Dieu le Tout-Puissant que l'Amérique et tous ses habitants ne pourront plus dormir en sécurité tant que cette sécurité ne sera pas une réalité en Palestine et tant que toutes les armées d'infidèles n'auront pas quitté la terre du prophète Mohammed, que Dieu bénisse son nom.
Vous rencontrez Ben Laden trois fois, et puis presque une quatrième fois, le 11 septembre, là vous n'êtes pas à ses côtés, vous êtes dans un avion, vous allez vers les États-Unis, je crois, c'est ça, hein, vous êtes dans cet avion, où vous apprenez, par le secrétariat de votre journal, The Independent, ce qui vient de se passer à New York. Et là vous repensez à tout ce que vous êtes en train de nous dire.
C'est vrai que dès que j'ai entendu cette information, je suis allé voir l'équipage de l'aéronef et je dis, je ne sais pas ce que le capitaine sait, mais voici l'information que nous avons reçue, c'est quelque chose de très grave. Et il avait entendu la première collision, il ne savait pas si c'était un accident, parce qu'au début on pensait que c'était un petit avion qui était tombé par accident sur l'une des tours jumelles. Et lorsque j'ai appris la nouvelle, il y avait l'hôtesse qui était en pleurs, qui s'est dit, mais il y avait des gens à bord de l'avion, et on pensait à l'époque qu'il y aurait des dizaines de milliers de morts et que des pirates de l'air avaient tout planifié, etc. Mais d'où venaient les avions? On ne savait pas qu'ils avaient décollé des États-Unis. On pensait qu'ils venaient peut-être d'Europe ou d'Amérique latine. Et le personnel navigant s'est un peu interrogé. Et puis, on se demandait, mais qui est-ce qui est à bord de notre avion à nous? Et on a commencé à regarder tous les passagers pour savoir qui nous n'aimions pas. J'ai fait une liste, il y avait 13 personnes, deux en classe affaires, les autres en économie. Et la plupart des passagers étaient musulmans parce qu'ils avaient la peau de mat, ou peut-être qu'ils avaient une barbe ou je ne sais quoi, ou des chapelets. Enfin, il y avait ces personnages suspects et qui n'avaient rien à voir avec tout ça, qui étaient parfaitement innocents. Mais je me suis rendu compte en revenant à ma place Dans l'espace d'une minute, Osama Ben Laden avait fait de nous des racistes. On commençait à faire le profilage des passagers avant la lettre. Et je me suis rendu compte que l'une des choses que Ben Laden allait faire, c'était de diviser les innocents entre eux. Il ne s'agit pas de la guerre des infidèles contre l'Occident, je ne sais quoi. C'était nous qui allons bombarder des populations innocentes, de tirer sur des innocents dans le métro de Londres, par exemple. C'est ça qui l'a créé. La division entre gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Et c'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte et tous les droits de l'homme étaient emportés par le vent de cette boîte de Pandore. Tout cela allait être enseveli parce que le 11 septembre 2001 allait être un jour saint, un jour sacré, plus important que toutes les lois, tous les droits de l'homme, etc.
Et dans cet avion, donc, Robert Fisk écrit un papier. Il a très très peu d'indications, très très peu d'informations sur ce qui est en train de se passer à New York, mais il écrit un papier qui va dicter avec le téléphone satellite de l'avion à son journal qui le publiera le lendemain matin. Et dans ce livre, il publie intégralement le papier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repentir, il ne le retouche pas et il le publie intégralement. Il écrit dans ce papier, donc écrit dans la stupeur, la tension du moment. Il dit par exemple, il y aura inévitablement et sans doute une tentative immorale d'obscurcir les griefs historiques masqués par les incendies d'hier. On nous parlera d'un terrorisme sans âme. Le côté sans âme étant un point essentiel du refus de réaliser à quel point la haine de l'Amérique a grandi sur la terre qui a vu naître trois grandes religions. Il faut lire cet article qui est pas véritablement un article d'information, mais d'analyse, de réflexion fait à chaud. Et obsessionnellement, et dès que cet événement sidérant se produit, évidemment, vous vous souvenez, Fisk essaye le plus vite possible de réfléchir. C'est-à-dire, face à l'événement, il essaye de penser le plus possible. Et ça, c'est un défi. Bien sûr qu'on a des réflexions, des analyses après, a posteriori, mais on arrive toujours trop tard. Il fait partie de ces hommes qui ont la rage d'essayer de penser l'événement au moment où il se produit. Si à ce moment-là, le lendemain du 11 septembre, on avait fait un sondage mondial, à l'échelle mondiale, je ne sais pas si on pratique ce genre de choses, je pense que oui, eh bien je ne suis pas du tout sûr que Ben Laden soit apparu comme le diable qui nous est apparu immédiatement à nous autres, qui nous identifions évidemment avec les États-Unis. Et pour cette raison, pour ce doute au moins qu'on peut avoir, eh bien ça valait la peine de demander pourquoi. Mais là, vous devenez subversif et tout le monde vous soupçonne parce que vous n'avez qu'un mot. C'est pourquoi. Vous voulez demander pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi.
Yeah. Look, after September 11, and I wrote
Il faut comprendre qu'après le 11 septembre, ça, j'ai écrit ça le jour même, qu'on n'allait pas se demander pourquoi. On pouvait savoir qui. On pouvait se demander qui avait fait ça. 19 Arabes. On pouvait se demander comment. Il y avait des cutters, ils se servaient de l'avion comme d'une bombe, etc. Mais si on demande pourquoi, alors on détruisait l'idéologie de George Bush qui nous dit terroriste parce que nous représentons le bien. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est dire un instant. 19 Arabes, mais ils venaient du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a un problème? On n'avait pas le droit de se poser la question. C'était un peu ridicule. Dershowitz, qui était un universitaire, m'a attaqué sur la radio irlandaise pour dire, si on se pose la question, on devient soi-même le terroriste, on devient anti-américain, antisémite par la même occasion. C'est-à-dire que si moi je me pose la question, il fallait que je devienne nazi. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai commencé à recevoir des cartes postales qui disaient m'accusant, disant que ma mère était la fille de Eichmann, alors qu'elle avait travaillé à l'effort de résistance, au contraire. Enfin, on nous empêchait tous de nous poser la question de savoir pourquoi. Pourtant, c'est illogique. S'il y a un crime, par exemple, ici à Paris, la première question qu'on se pose, c'est la question du mobile, quand même. Et s'il y a un crime international contre l'humanité, à New York, à Washington ou en Pennsylvania, la seule question qu'on n'a pas le droit de se poser, c'est de savoir pourquoi. Là, il y a quelque chose qui cloche, quand même.
8:48 a.m. Mayhem in Manhattan.
We saw a plane coming very low, and everyone said, wow, that plane is very, very low.
Come on, guys, keep moving.
I was walking to work, and all of a sudden, I see a jet crash into the first tower.
An American Airlines flight loaded with 92 people crashes head-on into the North Tower of the World Trade Center.
And then we heard the crash. We ran to the window.
The building. It went into the Trade Center.
It hit the Trade Center. We saw all the shrapnel fall. And then we said, get out.
And minutes later.
Oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God. Another plane has just hit.
I heard a roar, and I looked around thinking that it had to be a helicopter, and I looked up and I saw the second plane hit.
A second commercial plane, a United Airlines jet, also hijacked, carrying 65 people, plows into the South Tower.
First one we thought was an accident. When we heard there was a second one, we definitely thought it was terrorism.
On the ground, witnesses could not believe their eyes.
Oh, they're jumping!
70 stories up with the building burning, reason gave way to desperation.
Continuing danger.
Hour of danger.
Very, very dangerous world.
September 11th.
September 11th. September 11th.
Radical ideology of hate.
C'est là, effectivement, que ce mot de terrorisme connaît une fortune extraordinaire. On l'avait déjà vu, ce mot. On le rencontre régulièrement dans l'histoire. Chez nous, les terroristes, c'était pendant la guerre, les résistants, la résistance qu'on appelait terroristes. Mais là, ce mot prend toute la place et effectivement, c'est un mot sans réplique, sans explication et de façon récurrente dans votre travail, dans ce livre, vous revenez sur ce mot creux, sur ce mot vide.
Look, the word terrorism.
En effet, le mot terroriste est utilisé pour nous faire taire. C'est-à-dire que d'une fois qu'on a prononcé ce mot, ça y est, on a pris parti. Et parce que l'autre côté, le côté de Ben Laden dit qu'il veut libérer les États-Unis. Donc quand on utilise ce mot, c'est pourquoi je ne veux pas l'utiliser, même après le 11 septembre. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir s'en tenir à des notions de justice, d'injustice, de crimes, de tribunaux, de crimes contre l'humanité. Parce que si on ne fait pas face aux événements que nous voyons en termes, disons, juridiques devant la loi, eh bien, il faudra accepter le non-droit. Et effectivement, les nations qui utilisent ce terme se sont débrouillées pour accroître ou renforcer les lois contre la terreur ou le terrorisme, etc., s'engageant à faire des choses à d'autres pays que nous ne ferions jamais, que nous n'autoriserions jamais en temps normal. Seul exemple, lorsque les États-Unis essayaient de bombarder donc Saddam Hussein pendant la première invasion en 1993, ils ont reçu des informations inexactes selon lesquelles Saddam Hussein se trouvait dans une zone de Bagdad qui s'appelle Mansour. Il y avait une décision à prendre, est-ce qu'on bombarde ce quartier de Mansour à Bagdad? Et les pilotes américains et les officiers du renseignement savaient que c'était une zone civile avec beaucoup de civils qui habitaient là. Alors, curieusement, c'était une zone chrétienne et il s'agissait de savoir s'ils allaient bombarder cette zone, sachant que Saddam y était peut-être, sachant également qu'il y aurait des civils tués. Ce ne seraient pas des dégâts collatéraux. Ils savaient qu'ils allaient tuer des civils s'ils allaient bombarder. Mais ils ont décidé d'y aller, alors que Saddam n'était pas là. Il y a eu 22 morts, et on a vu le dernier corps, un bébé qui avait été exhumé 3 jours plus tard. Moi, je trouve que c'était un crime contre l'humanité. Maintenant, si je dis que c'était une action terroriste, à ce moment-là, le monde s'arrête, et il n'y a plus, on dit que le journalisme n'est plus équitable. Mais c'était un crime contre l'humanité parce que nous savions pertinemment que nous allions tuer des civils pour soi-disant une cause juste. Mais que penser de cela? Cet acte qui était un crime, dont les victimes, les victimes n'auraient pas souffert parce que nous les connaissions. Enfin, ils savaient pertinemment qu'ils allaient exterminer des familles entières. Et dans ces circonstances, comment se servir du mot terrorisme?
Come out! Open the door! Open the door!
Get your hands up and come outside. Come outside. Everybody in the house needs to come outside.
Out here in the yard, out here in the yard. Keep going, keep going, keep going, keep going. Keep going.
Right. No one there, no one. No one in that one.
That's up, sir.
Yeah, clear the house now.
Let's sweep on down straight.
Keep going.
So here's a toast to all the folks that live in Palestine, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Here's a toast to all the folks living on the Pine Ridge Reservation under the stone-cold gaze of Mount Rushmore. Here's a toast to all those nurses and doctors who daily provide women with a choice, who stand down a threat the size of Oklahoma City just to listen to a young woman's voice. And here's a toast to all those folks on death row right now, awaiting the executioner's guillotine, who are shackled there with dread and can only escape into their heads to find peace in the form of a dream. Because take away our PlayStations, and we are a third world nation, under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office and that phony election. I mean, it don't take a weatherman to look around and see the weather. Jeb said he'd deliver Florida, and boy, did he ever. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media, it's not fooling you. It's not fooling me.
I'm Eric Shawn at the United Nations, where in just hours from now, the British will introduce a second resolution co-sponsored by the U.S. and Spain. It's number 18 and could be Saddam's last chance.
You know, war is my last choice.
Votre livre, Robert Fiske, s'intitule « La grande guerre pour la civilisation », mais ces années dernières, on a beaucoup parlé de guerre de civilisation. Est-ce que vous croyez, vous qui connaissez si bien ce Moyen-Orient, qu'on est en présence d'une guerre de civilisation entre le monde arabo-musulman, qui est le mal, et puis nous qui sommes la civilisation?
Yes, civilization.
Parce que c'est quand même, là on plaisante, mais c'est quand même une lecture qui prévaut, qui s'est installée dans les esprits.
You know, I've spoken so many times to various academics in the Middle East about the idea of civilization.
D'universitaires du Moyen-Orient, de cette notion de civilisation. Alors, on parle de la civilisation persane lorsqu'on parle du passé. Mais lorsqu'on parlait de la civilisation arabe, on parle du 15e ou du 14e siècle. On ne veut jamais reconnaître que les Arabes font partie d'une civilisation aujourd'hui. C'est-à-dire que la civilisation, comme disait Bernard Lewis, on voit ce qui a mal tourné. C'est ça la civilisation. Autrement dit, les Arabes avaient peut-être une civilisation autrefois, maintenant on veut leur rendre, parce qu'ils ont perdu leur civilisation. L'idée selon laquelle tout le monde doit être comme nous, et c'est à nous de donner la démocratie au reste du monde. Nous sommes toujours en train de libérer le monde à coups de bombes et de fusils et autres. Tout ça pour dire que ce n'est pas une question de civilisation qu'on veut mener ou non. Nous sommes toujours là en train de meurtrir des peuples en disant, mais ces gens veulent que nous soyons là parce que nous leur apportons la liberté de la tyrannie pour la démocratie. Alors, moi, je dis que, certes, les Arabes ne diraient pas non à une certaine démocratie. Ils aimeraient bien récupérer un peu de nos droits de l'homme. Comme s'ils pouvaient les acheter au supermarché. Mais ils veulent un autre genre de liberté aussi. Une liberté du monde occidental. C'est-à-dire une certaine indépendance, mais on ne veut pas leur donner cette liberté-là, cette indépendance. Et lorsque Ben Laden dit que cette liberté, il doit la conquérir, alors les Arabes aiment bien cette idée. Ils deviennent tout d'un coup leur porte-parole. Ils n'ont pas tellement envie de cette histoire de tours jumelles et tout ça, ça leur plaît pas trop. Mais par contre, ils ont des dictateurs arabes qui ne vont pas prononcer ces mots que Ben Laden prononce. Alors tout d'un coup, on écoute Ben Laden. Et la grande humiliation, c'est que Ben Laden dit ça du fond d'une caverne en Afghanistan.
Le président américain prévient que la guerre contre le terrorisme n'en est qu'à ses débuts. Il menace également l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Il les accuse de fabriquer des armes de destruction massive. Écoutez.
States like these
and their terrorist allies.
Ce genre d'État et leurs alliés terroristes constituent un excès de mal, armés pour menacer la paix dans le monde. Les États-Unis d'Amérique ne permettront pas aux régimes les plus dangereux du monde de nous menacer avec les armes les plus destructrices.
Voilà, vous parlez de Bush, vous parlez de Ben Laden, vous parlez de Khomeini, vous racontez votre rencontre en Iran avec Khomeini, avec l'ayatollah Khomeini. Est-ce que vous avez donc, par votre métier, puis par votre passion de journaliste, rencontré des hommes de pouvoir? Est-ce que les pouvoirs ont essayé de vous instrumentaliser, vous aussi?
Oh, all powers try to use journalists.
Les pouvoirs ont toujours essayé d'instrumentaliser les journalistes. Et moi, je me rappelle en Irlande du Nord, lorsque j'avais 23, 24 ans, l'armée britannique voulait se servir de tous les journalistes à des fins de propagande. Et si on révélait cette propagande, alors ils nous détestaient. Le premier problème que j'ai rencontré avec le pouvoir, tel que vous l'appelez, c'était justement avec les Britanniques en Irlande du Nord. C'était à Belfast que j'ai appris à remettre en cause ce pouvoir et m'assurer que je ne représentais que moi-même et ne jamais céder au pression. Je me rappelle une fois que l'armée britannique, parce que j'avais écrit un reportage selon lequel la SAS britannique s'était rendue en Irlande du Nord, ce qui était vrai, à cause de ce rapport, je n'avais plus le droit de participer aux conférences de presse. J'ai dit, bon, moi, très bien, tant pis. Mais au bout de 5 semaines, ils se sont rendus compte que, bon, ils m'avaient suffisamment puni comme ça. Ils m'ont dit, voilà, je peux revenir. Mais j'ai dit, non, non, ça, c'est une punition permanente. Je ne retournerai plus jamais à une conférence de presse en Irlande du Nord. J'écrirai l'histoire, vous écrirez la propagande. Et c'est la seule façon de traiter avec cela. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Surtout au Moyen-Orient, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et ça c'est beaucoup plus grave là-bas. Il faut vraiment se battre et ne jamais présenter d'excuses, ne jamais se tromper, et si vous commencez à vous battre, il faut continuer de vous battre, de plus en plus dur, sinon il faut prendre sa retraite.
A stunning and cowardly strike on the United States. Terrorists and mighty skyscrapers crumbling to the ground. Many innocent people are dead. The president vows the killers will pay for this attack on America. September 11th, 2001. You will remember this day as long as you live.
Quel est le papier qui est, de vous qui a eu le plus de conséquences?
I think it was after the massacre at Karnak.
C'était après le massacre de Karnak. Il y avait les Israéliens avaient tiré sur des réfugiés libanais et palestiniens plutôt au Liban avec énormément de victimes parmi les enfants. Les Israéliens avaient dit que c'était une erreur et qu'ils se défendaient contre les tirs d'artillerie, mais ils disaient qu'ils ne savaient pas où leurs tirs allaient aboutir. Et ils ont dit aux Nations Unies, les Israéliens, qu'ils n'avaient pas d'avions espions, de drones qui surveillaient le camp de réfugiés. Mais moi, j'ai trouvé, je me suis rendu compte qu'il y avait un soldat des Nations Unies qui avait une caméra vidéo, une caméra amateur, qui montrait très clairement le pilote de l'avion qui survolait le camp lorsque les tirs tombaient dessus. Il m'a fallu 3 jours pour savoir qui avait une copie de ce film vidéo et quelqu'un m'a donné l'exemplaire de cette cassette. C'était un acte de courage. Moi, je suis retourné à Beyrouth, j'ai pu voir effectivement le pilote de l'avion qui voyait très bien ces bombes tombées sur le camp de réfugiés et qui pouvait filmer en temps réel exactement ce qui se passait. Et alors, nous avons fait des copies de cette cassette vidéo, de cette aéronef qui survolait le camp. Nous avons distribué des exemplaires de cela à tout le monde, y compris et d'ailleurs à la télévision israélienne, mais également britannique, française, américaine, etc. ABC aux États-Unis, par exemple. Et le lendemain, on voyait que la cassette vidéo avait mis Israël au banc des accusés. Donc là, vraiment, on avait la preuve incontournable que l'avion savait ce qu'il faisait. Et ça a contraint les Nations Unies à une époque où l'administration de Washington voulait empêcher Boutros-Ghali, qui était secrétaire général, de publier ses rapports. Et sur Karnak, là, les Nations Unies ont été obligées de publier ce rapport, montrer que ce bombardement n'était pas, en fait, une erreur ou un accident. Et lorsque je me suis rendu à Karnak, donc en ce même camp, j'étais avec mon chauffeur libanais, et il y avait un avion israélien qui a suivi notre voiture à 10 mètres au-dessus du sol, et ensuite, s'est retourné, et je voyais d'ailleurs le pilote et le copilote, et ensuite passer de l'autre côté de l'horizon. Il ne s'est rien passé. Et j'ai demandé à Ahmed, est-ce que c'était une coïncidence? Ahmed, mon chauffeur, m'a répondu, je ne sais pas, mais il vaut mieux que ça ne se reproduise pas. C'était peut-être un avertissement, je ne sais pas. Mais en réalité, nous avons bouleversé le cours de l'histoire à ce moment-là en montrant qu'il y avait un avion qui avait surveillé, survolé plutôt ce site. Et à ce jour, tout le monde reconnaît que l'avion était là, qu'il savait ce qu'il faisait. Donc la vérité est établie. Et là, c'était un exemple où nous avons pu montrer, remettre en quelque sorte l'histoire sur la bonne voie, sur la voie de la vérité, révéler les faits qui s'étaient occultés. Et Shimon Peres, qui cherchait à se faire réélire en Israël, disait que le Independent raconte des mensonges. C'était la preuve que justement nous disons la vérité. Mais pouvoir démontrer sans l'ombre d'un doute que nous avions raison et qu'eux, ils avaient tort, ça, c'est très satisfaisant.
A new world order. A new world order. A new world order.
Revenons au bouquin, parce que c'est ça qui nous réunit. Vous avez des descriptions terribles, très dures, des scènes de guerre, de boucherie épouvantables comme ça. Est-ce que vous croyez à une pédagogie de l'horreur?
Look, I think that television in particular.
Moi, il me semble que la télévision en particulier est devenue une institution assez meurtrière. Je m'explique. Lorsqu'elle couvre la guerre, il y a évidemment la censure militaire qui intervient, ou une auto-censure qui est là pour épargner la sensibilité du téléspectateur.
Alors,
au sud de Bassora, en 1991, un jour, j'étais avec une équipe de télévision britannique, et nous avons trouvé des cadavres de femmes, d'enfants qui avaient été tués dans une attaque. Il y avait des chiens qui étaient venus du désert pour manger ces cadavres dépecés. Et ils traversaient le désert avec des membres de corps humains, des doigts, des bras, que sais-je. Et l'équipe britannique a commencé à filmer cet engagement. Pourquoi filmez-vous ça? On ne va jamais passer ça à la télé. Moi, je peux décrire ça par écrit, mais vous n'allez jamais passer ces images. Et à Londres, ou à Washington, ou même à Paris, vous avez des rédacteurs en chef qui vous disent oh, c'est trop horrible, on ne peut pas montrer ça. Et là, soit parce qu'on va montrer ça à l'heure du petit déjeuner, vous avez 500 000 Français qui vont vomir en mangeant leur petit déjeuner, ou bien c'est une forme de pornographie et il ne faut pas donner dans le voyeurisme. Mais en réalité, si quelqu'un avait vu ce que j'ai vu sur les scènes des champs de bataille, plus jamais il n'appuierait une guerre, ne serait jamais plus pour la guerre. Mais avec cette fameuse auto-censure, justement, les rédacteurs des programmes de télévision, ils aseptisent la guerre en quelque sorte, ils arrivent à la vendre. Et ils deviennent en quelque sorte les complices de cette guerre. Et ils deviennent des assassins parce qu'ils nous permettent à nous de retourner, de refaire la guerre. Et l'ironie de tout cela, c'est qu'au cinéma, dans un film de fiction, comme Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple. Vous voyez des choses épouvantables, des choses que moi j'ai vues, des gens dont les entrailles explosent, des gens qui meurent dans des douleurs effroyables, mais en réalité on ne le voit jamais. C'est très curieux. Si on veut voir ça, si on veut voir ce que nous voyons de nos yeux en réalité, il faut le voir en forme fictive au cinéma, parce que la télévision réalité ne s'intéresse pas à ces choses-là. Et je vais donner un autre exemple assez classique de cela. Il y avait une photo qui a été prise pendant la guerre de l'Irak en 2003. Et moi, j'étais présent lorsque cette photo a été prise. C'était un homme, un Irakien, qui tenait sa fille, une très jolie jeune fille avec des longs cheveux, et sa jambe droite avait été dépecée. Elle était morte, hein. Il y avait un os qui dépassait, c'était horrible. Eh bien, dans bien des journaux, y compris en France, les rédacteurs du journal ont coupé l'os, justement, montré pas l'os. La photo s'arrêtait à droite. On voyait le pantalon de la fille, mais on voyait pas l'os qui dépassait. Et on disait, on voyait cet homme porte cette fille, sa fille blessée à l'hôpital. Elle était pas blessée, elle était morte. On ne pouvait même pas dire la vérité. On ne pouvait pas montrer qu'elle était morte. On ne pouvait même pas lui dire qu'elle était morte au lecteur. Moi, j'ai dit au journal que cette fille était morte. Son père portait son cadavre. Mais on voyait ce que montrait la télévision. C'est-à-dire cette version aseptisée. Et si on ne peut pas être juste lorsqu'on représente la guerre telle qu'elle est, alors les images de la télévision font partie de la guerre. C'est une forme de propagande finalement, parce qu'ils ne montrent pas les véritables horreurs, ce que sont les vraies conséquences de la guerre. Parce que la guerre, contrairement à ce que disent les journaux ou les hommes politiques, que c'est une question de victoire et de défaite, c'est une question de mort et de souffrance. Enfin, c'est surtout l'esprit de l'homme qui a échoué. On remplace cet esprit par la violence.
Est-ce que vous pensez que, en vous lisant, j'ai souvent pensé à Franz Kappa, par exemple, le photographe Kappa. Est-ce que vous pensez qu'il y a des époques, la guerre d'Espagne, par exemple, le Vietnam, où les journalistes ont mieux fait leur boulot? Est-ce que vous pensez qu'autrefois les journalistes faisaient mieux leur boulot?
Donc, si vous lisez les mémoires des journalistes qui avaient couvert la guerre d'Espagne, la guerre du Vietnam, ils avaient les mêmes problèmes que ceux des journalistes aujourd'hui. Et ceux qui remettaient en cause l'autorité avaient également le même genre de relation avec l'autorité que moi ou que Amir Arras. Mais il y avait peut-être moins de journalistes à l'époque, et ils étaient moins visibles. Dans le cas de la guerre civile espagnole, il n'y avait pas de télévision. On ne peut pas cacher une caméra et ses cordons et tout ça, et l'équipage. On peut se déplacer plus facilement lorsqu'on n'a pas le matériel. Les photos, la photo célèbre de Kappa, du soldat en Espagne qui a été touché par balle et qui meurt, ça c'était des photos qui ont été prises et qui ont été également prises par les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez des documents analogues. Pendant la guerre du Vietnam, les photographies n'étaient pas très graphiques, n'étaient pas très réalistes. Enfin, vous voyez, ce n'est que lorsqu'il y a eu 20 000 morts que les journalistes américains, que les journalistes ont commencé à publier des photos qui montraient une violence extrême. Au début, il n'y avait rien de tout cela. Et on avait évidemment cette photo emblématique de cette petite fille qui fuit son village nue après un bombardement de napalm. Mais c'est là qu'on a commencé à voir la réalité de la guerre, également d'ailleurs des victimes américaines et pas simplement vietnamiennes. Mais il y avait quand même les restrictions qui existent aujourd'hui et qui s'appliquent par exemple à la guerre du Golfe. Si un Irakien, par exemple, est suffisamment à la gentillesse de bien vouloir mourir de manière romantique pour qu'on puisse le photographier sans montrer ses blessures horribles, alors là on est en train de dire, ah voilà, le coup de la mort à travers le désert, etc. Mais la véritable horreur de la guerre n'est venue qu'à après la fin de la guerre du Vietnam, lorsque tout d'un coup les journalistes ont dit « Les gens sont contre la guerre, il faut qu'ils sachent ce qui se passe là-bas. Il faut le montrer, et on ne le montre pas. » Mais nous ne sommes pas arrivés à ce stade au Moyen-Orient où la vérité est encore masquée, et nous autres journalistes qui sommes là n'arrivons pas toujours à tout montrer. Et les Arabes aussi, il faut qu'ils voient cette réalité, ils ne la voient pas. On pense aux photos d'Abu Ghraib, la prison. Tout le monde a été choqué de voir ces abus sexuels des prisonniers, ces chiens, cette fille américaine qui souriait devant ces cadavres irakiens. Mais les Irakiens n'étaient pas choqués parce qu'ils se disent, on fait toujours ça, c'est normal. Et c'est ce que leur raconte la propagande. Et c'est ce que leur ont raconté leurs amis en prison. C'est-à-dire que nous sommes protégés de nos propres horreurs, en quelque sorte. Et lorsque les photos sont sorties, l'administration américaine a dit, c'était terrible, les Irakiens vont nous détester. Mais ils nous détestaient déjà, on n'avait pas besoin de ça. Et donc, non seulement nous cachons la réalité de la guerre à notre propre public, mais nous cachons nous-mêmes notre propre conduite. Et nous autres journalistes sommes un peu complices de tout cela.
Merci Robert Fish. Je rappelle le titre de son bouquin, La Grande Guerre pour la Civilisation, aux éditions La Découverte. Merci aussi au traducteur Robert Wolfenstein. Merci à Catherine Louis de l'INA pour les archives. Technique aujourd'hui Olivier Riotor, Ludovic Asselot. Réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet. Assistante Pascal Pascariello. Le répondeur c'est Christophe Imbert et le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37. L'email de l'émission c'est daniel.mermer@radiofrance.com. On se retrouve lundi à 17h pour la basse où j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour le journal avec Jacqueline Petro. Salut.